Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, élection américaine, une passion française. Il en va des candidats aux primaires américaines comme des personnages de feuilleton. Quand les rôles secondaires disparaissent de l'écran, c'est à peine si on s'en aperçoit. Ainsi, n'entendrez-vous plus parler du démocrate Martin O'Malley, ni du républicain Mike Huckabee. Leurs scores ridiculement bas lors des caucus de l'Iowa les ont convaincus d'arrêter là les frais. Mais qu'on se rassure, les vedettes, elles, n'ont pas quitté la scène. Trump, le milliardaire sexiste et xénophobe, Hillary, la vraie patronne du clan Clinton, Cruz, l'ultra-religieux, ultra-conservateur, et le plus effrayant de tous, Sanders, le socialiste. Ces quatre-là, au coude à coude dans l'Iowa, ont de beaux jours médiatiques devant eux. Alors pas seulement aux États-Unis, mais aussi en France, où une tradition plus solide que celle d'Halloween revient désormais chaque année bissextile. La course à la présidentielle américaine nous passionne, au point que nous sommes en mesure aujourd'hui de mieux comprendre le système des caucus que le mode de scrutin aux dernières régionales. Alors élection américaine, une passion française, c'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités ce soir. Célestine Bollen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, chroniqueuse à l'International New York Times. Vous enseignez le journalisme à Sciences Po. Pour discuter avec vous, un compatriote, Stephen Ekovic.
Bonsoir.
Politologue et historien, professeur à l'Université américaine de Paris. Quand je dis compatriote, ça veut dire que tous les deux, vous êtes américains. Et puis notre troisième invité, Thomas Negaroff. Bonsoir.
Tristement français.
Bon, mais c'est pas si mal finalement. Historien, spécialiste des États-Unis. Histoire d'info, c'est sur France Info chaque matin. Et puis je citerai votre dernier ouvrage publié à l'automne aux éditions Naïve, Je suis ton père, la saga Star Wars, l'Amérique et ses démons.
France Inter. C'est le petit état qui donne le la et la nuit est longue dans l'Iowa.
Le vote a commencé aux États-Unis. L'Iowa donne le coup d'envoi des primaires.
Un premier revers pour le milliardaire Donald Trump dans la course.
Les primaires dans l'Iowa, côté républicain Donald Trump.
C'est la première grande surprise du début de la course à la candidature présidentielle.
Europe Midi sur Europe 1.
Des primaires très 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 serrées dans l'Iowa. Hillary Clinton l'emporte.
Aux États-Unis, premier coup de bambou pour les deux favoris de la course à la Maison Blanche.
Toujours dans l'actualité politique, mais aux États-Unis, cette fois, le coup d'envoi des élections primaires américaines. On a voté.
Voilà, ça dure 40 secondes. Ça aurait pu durer 40 minutes. La couverture par les médias, pas seulement audiovisuels, évidemment, on ne peut pas retranscrire à la radio ce qui se passe dans la presse écrite, mais autour donc du début de ces primaires américaines, du côté des républicains et du côté des démocrates. Célestine Bollen, est-ce que vous êtes surprise par l'intérêt qui est celui marqué par les médias français autour de ces primaires?
Oui, oui, ça m'a frappée. Je pense qu'il y a des gens en France qui comprennent mieux que des gens aux États-Unis qui ont toujours un peu de problème avec les caucuses et tout ça, c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est ce que je pense qu'on peut constater, c'est que c'est une élection avec des surprises. On pensait au début que ce serait Clinton et Bush et que ce serait vraiment ennuyeux et une répétition d'autres élections. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et je pense que c'est ça qui a frappé les Français, que tout d'un coup, il y a des candidats dont on n'avait jamais entendu parler.
Et peut-être que si ça avait été davantage attendu, on aurait un peu moins couvert le début d'un processus, car rappelons-le, ce n'est que le début d'un processus. L'élection présidentielle américaine, dites-moi si je me trompe, Stephen Ekovic, mais ça sera en novembre prochain, donc il y a encore un petit peu de temps.
Voilà. Donc, non, je ne suis pas surpris qu'on suive ici les élections américaines, mais ces épisodes-ci, pour prolonger votre métaphore, hein, ces épisodes-ci de cette feuilleton est passionnant, plus passionnant que dans le passé. Et je crois que les Américains voulaient quelque chose de plus passionnant. L'idée d'avoir de nouveau un Clinton et un Bush, je crois que les Américains ont craqué. Donc, cette fois-ci, en effet, on a beaucoup de surprises. Et il y a beaucoup de ça pimente beaucoup cette élection aussi pour permettre aux Français de peut-être aussi suivre ce qui se passe aux États-Unis par procuration. C'est un et de toute façon c'est une grande puissance les États-Unis, mais c'est une grande puissance démocratique. Donc les processus démocratiques sont déchiffrables. Tandis que la Chine, c'est une grande puissance aussi, mais c'est difficile là, vraiment de s'identifier avec les procédures de choix d'élite en Chine, si vous voulez. Donc,
Thomas Tsengaroff, vous qui avez écrit sur le mythe Star Wars, est-ce qu'on pourrait faire une forme peut-être de comparaison? Alors, je ne vais pas essayer de trouver qui correspond à quel personnage. Mais en tout cas, le côté, effectivement, feuilleton avec des personnages au caractère très marqué, est-ce que c'est une des raisons qui pourrait expliquer que les Français qui aiment beaucoup les séries télé américaines, par exemple, s'intéressent en particulier à cette élection-là?
Alors, c'est difficile de répondre. J'ai regardé un peu dans les archives de l'INA, que je dépiote un peu tous les jours pour ma chronique, et je me suis rendu compte que l'intérêt des Français pour les primaires, en tout cas l'intérêt médiatique, parce qu'il y a peut-être opérer une distinction entre l'intérêt médiatique et l'intérêt des Français, c'est pas forcément, à mon avis, la même chose. Mais en tout cas, l'intérêt médiatique pour les primaires américaines, il est assez récent en France. J'ai commencé à trouver des premiers sujets en 1976, donc intéressant parce que d'abord c'est effectivement la période de Star Wars, mais c'est aussi et surtout je crois l'apparition d'un candidat nouveau, Jimmy Carter, qui nous raconte une histoire qui plaît un peu aux Français. Et puis 80, alors Reagan plaît énormément aux Français, mais sur un mode plutôt de rejet, hein, d'incompréhension, de rejet et d'incompréhension. Ce qui, à mon avis, opère largement aujourd'hui sur cette étrangeté qui nous fascine, en fait. Il y a une fascination, je crois, pour le processus électoral et pour les candidats. C'est surtout ça, à mon avis, que le processus électoral, qui est vraiment complexe. C'est-à-dire, tous les 4 ans, on doit réexpliquer tout parce qu'on oublie au fur et à mesure. Et à partir de 80, on s'intéresse vraiment beaucoup à ces campagnes. Évidemment en 2008 avec Barack Obama. Donc je crois que ça tient vraiment à l'identité. Vous avez eu raison de revenir à mon avis sur le côté feuilleton, sur le côté casting quasiment aux États-Unis. C'est ça qui intéresse les Français. Combien de fois nous a-t-on posé la question sur Trump, qui est Trump, qui est ce Trump, etc. Bientôt ce sera qui est ce Rubio, etc. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la fascination pour des personnalités étonnante, surprenante, et qui peut-être aussi viennent combler une forme de tristesse de la vie politique française où on n'a pas ces figures comme ça. Alors c'est un moyen peut-être de vivre par procuration une vie démocratique certes étrange, mais assez excitante.
Il faut ajouter quand même que oui, jusqu'à les années 70, il n'y avait pas beaucoup de primaires. Hein.
En plus.
Ouais, en plus. Et aussi, il y a deux phénomènes conjugués. L'arrivée sur la scène politique des primaires et aussi une paysage médiatique de plus en plus dense. Donc, si vous mettez les deux ensemble, évidemment, ça va attiser cet intérêt et aussi de nous emmener à faire des références à Hollywood et les grandes séries télévisées.
Mais est-ce que vous diriez que le débat politique aux États-Unis est un petit peu plus exaltant qu'en France, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il est plus intéressant sur la question du fond, mais en tout cas au moins sur la forme, Stephen Ekovic?
Je ne sais pas si c'est plus exaltante. Il y a une curiosité française qui touche, il faut l'admettre aussi, un certain anti-américanisme. Les Français peuvent se conforter de ces farfelus pour se conforter dans leur vision de leur politique qui est plus sophistiquée et plus cosmopolite et plus intelligent. Donc je crois qu'il y a ce côté aussi qui s'intéresse les Français pour les conforter dans leurs a priori vis-à-vis des Américains.
Il y a peut-être une petite forme de condescendance dans la fascination que nous avons, nous Français, pour monde politique américain.
Enfin, Célestine Bollène, on peut résumer ça en deux mots, c'est Donald Trump, qui est quelqu'un qui est incroyable pour beaucoup de gens, pas seulement les Français, mais qu'il soit vulgaire, qu'il soit pas très éduqué, dans le sens qu'il connaît pas très bien l'histoire, qu'il dit n'importe quoi, qu'il dit qu'il peut tuer quelqu'un sur Fifth Avenue sans problème. Tout ça, exactement comme Steve a dit, c'est que ça réconforte les idées des Américains qui sont pas comme nous, qui sont pas aussi...
Pour les Français.
Pour les Français. Mais l'autre chose, c'est que je pense que cette année, et d'autres aussi, les Français ont vu un système qui n'est pas aussi bloqué que le système français. Parce que ici, si là, on pensait que c'est Clinton et Bush, ici, on pense que c'est Hollande et Sarkozy, et une répétition d'une... Et je pense que le problème, aux États-Unis, ça s'est passé comme ça. Et donc, tout d'un coup, on a plein de nouveaux candidats, nouveaux, pas pour ceux qui connaissent, mais... Et ça fait... Alors, je pense que ça, il n'y a pas de débat, en fait, aux États-Unis maintenant. peut-être au parti démocrate, mais au parti républicain, c'est pas vraiment...
Ça bouscule et ça même explose.
C'est un clash de personalities.
Thomas Negaroff.
Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Il y a à la fois l'idée que les États-Unis c'est très différent de nous, mais il y a quand même la volonté de tirer un trait, un fil entre eux et nous. Alors, sur deux modes. Un, ils sont très différents de nous, on est 10 fois mieux qu'eux sous un mode anti-américain, mais aussi le mode, on l'a tellement dit, on le dit moins aujourd'hui, mais chez nous, c'est 10 ans après ce qui se passe aux États-Unis, donc il y a pratiquement quelque chose de prospectif. Voilà comment notre société, notre vie politique, va évoluer. On n'arrête pas de nous dire, est-ce que Trump, c'est une sorte de Marine Le Pen un peu excessive, etc. Est-ce que on commence à avoir des primaires en France? Donc il y a quand même un intérêt, et puis aussi, on voit la classe politique qui vient s'inspirer. Mais directement des méthodes politiques américaines et l'élection américaine. Mais pas que ça. En 2012, on a vu toutes les équipes de campagne, notamment de François Hollande, qui ont épluché la technique de Barack Obama pour aller séduire les jeunes, pour tous les logiciels, pour aller traquer, repérer les électeurs potentiels, pour mieux les cibler, intégrer le big data dans la campagne électorale. Tout ça, c'est pas seulement se moquer des Américains. Il y a aussi quand même l'idée que la machine américaine, elle est efficace et qu'on peut la regarder avec une forme aussi, une forme de fascination.
C'est vrai que Stephen Ekovich, si on regarde par exemple le processus des primaires, on voit bien que l'emprunt, il est directement fait aux États-Unis. L'UMP ne s'appelle plus UMP aujourd'hui. L'UMP, ça s'appelle Les Républicains. Alors, je ne sais pas quel est le niveau...
Notre américanisation de la vie politique.
Bien sûr, hein, voilà. c'est forcément quelque chose, alors qui n'est peut-être pas entièrement conscient, mais enfin, il y a forcément une référence avec les Républicains aux États-Unis. Donc, les États-Unis peuvent aussi servir de modèle dans la pratique qui est la sienne du modèle électoral.
Non, il y a une américanisation de la vie politique en France, ça c'est sûr. Et je crois qu'il y a une certaine peur. Une certaine inquiétude, ça c'est, je crois aussi, il faut l'ajouter. Donc, pour poursuivre votre...
C'est-à-dire de se dire, ça peut arriver chez nous?
Oui, parce que ça peut-être annonce l'avenir, c'est un genre de science-fiction politique.
C'est un miroir, c'est un miroir, mais c'est aussi un miroir qui nous rassure. C'est au beau miroir, est-ce que je suis encore la plus belle démocratie du monde? Les Français, ils regardent l'élection américaine en se regardant dans le miroir de la télévision, dans l'écran, en se demandant si notre démocratie est encore la plus belle du monde. Parce qu'on a toujours une concurrence avec les États-Unis de modèle universel. Quelle est la plus belle démocratie? Celle qui fonctionne le mieux. Quand on regarde l'Iowa, on s'en moque. Vous avez vu le délire de l'Iowa, comment ça fonctionne? Personne ne pourra comprendre comment ça marche dans l'Iowa. On vote à main levée, on se regroupe dans des salles. Enfin, c'est un processus démocratique vraiment aberrant. Et ça nous permet aussi de nous dire, notamment sur la question de l'argent. Regardez, notre système démocratique, il est quand même plus efficient, plus moral. Donc, c'est un miroir dans lequel on regarde pour s'inquiéter, on se compare pour s'inquiéter ou pour se rassurer. Ça dépend quand, comment et pourquoi.
C'est Céline Bonnen.
Oui, mais je pense que la question d'argent, c'est vraiment clé ici. Mmh. Parce que ça va pas changer en France. Et ça fait l'énorme différence des campagnes électorales aux États-Unis. Donc, ça, la France peut se conforter sur ces questions. Et,
par contre, sur le reste?
Et sur le reste, oui. Enfin, je pense que toutes les techniques techno, enfin, tout ce qui est technologie, c'est sûr que les États-Unis sont 10 ans en avance de tout le monde, pas seulement la France.
Et pourtant, Dieu sait qu'on s'était moqué lors d'une certaine élection du système où on faisait voter en cochant des cartes
2000,
électorales.
Ça, c'est,
voilà,
ça, c'était
les cartes 2000, où on expliquait quand même que les États-Unis étaient particulièrement rétrogrades du point de vue justement de la machinerie électorale.
Oui, enfin, mais ça aussi, c'est quelque chose que la France a difficulté à comprendre, qu'on est une fédération. Donc, il y a des 50 États où des choses se passent différemment.
Ouais, c'était en Floride, là, c'est ça.
Hein. Oui, c'était en 2000. Floride.
Les élections sont même organisées au niveau local, de chaque comté, pas de chaque État.
Alors, la France d'habitude de voir des choses centralisées, donc là c'est vraiment c'est pour toutes sortes de questions, mais aussi pour les élections. C'est très différent d'un État à un autre, les enjeux, les règles. En fait.
Justement, ce système fédéral permet l'arrivée des nouveaux arrivants. Parce que c'est très décentré. Ça bouscule les systèmes, ça débloque les systèmes. C'est pas national. Donc, on peut faire ses épreuves dans un État comme un gouverneur et on peut aussi tenter après de briguer la présidence parce qu'on avait une expérience déjà d'exécutif, mais au sein d'un État.
Mais attendez, je pourrais vous dire qu'en France, on pourrait avoir exactement le même système de renouvellement du milieu politique avec les maires,
les
conseillers généraux et les conseillers régionaux.
Vrai, mais aux États-Unis, il n'y a absolument pas de cumul des mandats. On a un mandat et un seul. Et c'est vrai, l'idée de personne aux États-Unis d'être à la fois gouverneur et sénateur.
On trouve ça aberrant. C'est choquant.
C'est choquant pour les Américains. Donc, c'est pour ça qu'on, d'un côté, il y a une dimension assez vertueuse à cette démocratie, notamment vraiment sur le, on en parle beaucoup aujourd'hui dans le renouvellement de la classe politique.
Mais elle est anarchique, en fait. Enfin, c'est ça que je pense qui est assez beau, moi aussi, comme américaine, que ça, des choses peuvent arriver, ça peut changer. Quelqu'un peut arriver sur la scène et qui va complètement basculer les choses. Donc c'est un peu l'énergie américaine.
Qui pointe nos points forts et nos points faibles. Parce que nos points faibles, c'est aussi, tout le monde l'a dit en 2008, un Barack Obama ne pourrait pas devenir président français après avoir été sénateur pendant seulement quelques années. On voit que c'est inenvisageable en France. En France, je ne me souviens plus l'âge de Manuel Valls, mais il est considéré comme un jeune homme politique. Ouais. Marco Rubio, il est né en 1971. C'est son temps. Voilà, il est de son temps. Barack Obama était président aussi très jeune. Donc, il y a aussi une manière, je le disais tout à l'heure, mais de nous rassurer ou de nous inquiéter.
Oui, parce que ce renouvellement, il passe pas seulement par des figures politiques qui incarneraient une nouvelle façon de faire de la politique, en se disant que ça serait quelque chose de plus moderne. On voit bien, par exemple, avec quelqu'un comme Donald Trump, à la fois le côté un petit peu grand guignol qu'il peut y avoir, en tout cas dans la façon dont on l'abordait jusqu'à aujourd'hui dans les médias français. Peut-être qu'on se rend compte que c'est un peu plus sérieux que ça. Côté grand guignol, et puis un petit peu inquiétant, mais est-ce que le processus, par exemple, Stephen Ekovich, des primaires, ne pousse pas à mettre sur le devant de la scène ceux qui ont justement une singularité extrême à proposer? C'est-à-dire, j'ai essayé de brosser un portrait très très rapide des quatre possibles finalistes, du côté démocrate et du côté des républicains. Ce sont des gens qu'on peut caractériser facilement. Je disais Bernie Sanders, il est socialiste. Socialiste aux États-Unis, c'est quelque chose qui paraît assez incongru, mais en tout cas, on le définit de manière assez facile. Peut-être que ceux qui avaient davantage de mal à se distinguer sur la scène médiatique, eux sont passés derrière. Donc il y a quand même aussi une pression médiatique qui fait que on est obligé d'exagérer ces traits, non?
Dans l'histoire politique américaine, les Américains voulaient démocratiser leur choix de candidats. Parce qu'avant les années 60, c'était les barons du parti qui se sont réunis dans l'ensemble pour choisir les candidats. Ils ont toujours choisi quelqu'un qui était éligible. Donc, avec les primaires, ce sont des élections. Et les élections coûtent l'argent. Parce qu'il faut les médias, et les médias coûtent cher. Donc, l'effet pervers de cette démocratisation du choix des candidats fait qu'on donne plus de pouvoir à l'argent. Et plus d'influence aux médias. Donc, justement, les stars médiatiques politiques, ils peuvent percer dans le système. Et même s'ils perdent, ils introduisent des idées ou ils raniment une base différente ou ils consolident, ils poussent un réalignement des bases de chaque parti. Ce qu'on voit cette fois-ci, parce que Donald Trump est en train de jouer sur un certain réalignement des bases du Parti démocrate et aussi du Parti républicain. Donc, régulièrement, aux États-Unis, on a ce changement de base. Le Parti républicain pique une partie de la base des démocrates, Donc, on peut trouver un créneau, peut-être pas consciemment, c'était pas un génie, mais d'une façon intuitive, un Donald Trump ou un autre peut trouver un créneau pour pousser ses idées, pour présenter ses idées, pour faire avancer ses idées.
Pour exister dans la campagne présidentielle américaine, Célestine Bollen, il faut trouver un créneau qui permette de dire, voilà, je suis unique en mon genre.
Ce que je pense cette fois-ci, au moins, et c'est aussi une réflexion sur l'intérêt des Français dans cette campagne, c'est que il y a une réjection des élites, de l'establishment. Ça, c'est du côté républicain, c'est Donald Trump. Ça, c'est clair et parce qu'il n'a pas d'idée. Enfin, il propose presque rien. il est là contre cette élite, cet establishment. Bernie Sanders, c'est un peu la même chose, mais avec des idées. Et
c'est quand même différent.
Oui, non, c'est différent, mais il lui aussi a très peu de chance. Donc, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on va revenir, en fait, vers the establishment à la fin. Mais je pense que c'est une réflexion de... Il y a une colère aux États-Unis, comme il y a une colère en France. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment pas contents avec le destin qu'ils ont, qu'ils voient pour leurs enfants, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose de très profond.
Et ça, c'est peut-être cette colère partagée, c'est aussi quelque chose qui peut rassurer justement si ce n'est le public, vous aviez raison de faire la différence tout à l'heure, Thomas Stengaroff. En tout cas, les médias français de se dire, eux aussi, ils ont par exemple leur Marine Le Pen, eux aussi, ils ont, je ne sais pas, qui on pourrait dire leur Jean-Luc Mélenchon, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Mais en tout cas, on est toujours tenté de coller comme ça.
Trump, il est vraiment vécu en France, je crois, comme une grande étrangeté, une espèce de colérique, on ne sait pas trop. On le voit depuis des années à la télévision française, comme on le connaît en France. Hein. Bernie Sanders, c'est passionnant, parce que c'est comme Jeremy Corbyn, c'est comme Podemos, c'est comme Syriza. Ça permet à l'extrême-gauche française de faire la révolution par procuration. Moi, j'étais fasciné, je suis pas mal sur Twitter, de voir à quel point la gauche de la gauche française a pris fait et cause pour Bernie Sanders comme s'il était un candidat français, comme elle a pu, alors là c'est plus large que l'extrême gauche, hein, comme elle a pu prendre parti pour Barack Obama en 2008, mais comme Corbyn en Angleterre, comme Podemos en Espagne, comme Syriza en Grèce. On vit, comme en France, on n'a pas de leader véritablement charismatique et très populaire à la gauche de la gauche, dans la radicalité de gauche, et ben on a trouvé ce type-là, que personne ne connaît en France, que personne ne connaissait il y a 6 mois, et qui a l'air de porter toutes nos aspirations, et qui il dit des choses qu'on n'ose plus dire en France, que les 20 familles américaines les plus riches sont aussi riches que 150 millions d'Américains, et ça fait du bien, je dis nous, ça fait du bien à toute une partie de la classe politique française et à toute une partie des Français d'entendre ce discours tenu par un autre, dans un autre pays, mais qui semble nous parler.
Alors cette façon justement de faire de la politique par procuration, vous évoquiez Barack Obama en 2008, petit exercice de mémoire, petit souvenir en tout cas, écoutez comment on parlait de la victoire de Barack Obama, c'était il y a déjà 8 ans.
C'est en se réveillant que les Français ont appris la victoire de Barack Obama.
C'est formidable.
Jusqu'à présent, il n'y a eu que des présidents blancs et on voit où on en est arrivé. Alors laissons-lui sa chance, nous verrons bien.
L'explosion de joie à l'annonce du résultat définitif et le sentiment que tout devient possible.
Yes, we can! C'est un exemple. La France doit s'en inspirer. Yes, we can! Nous pouvons aussi en France. Ça sera plus dur, mais on peut.
À gauche, la victoire de Barack Obama fait rêver. Écoutez par exemple ce que dit Daniel Cohn-Bendit, joint par Anne Lordanier.
Ah, moi j'ai pleuré, oui. C'était absolument magique. Et que les Américains vraiment aient fait ça. Il faut dire chapeau, quoi.
Et j'aurais aimé que Martin Luther King soit là aujourd'hui pour le voir.
La compagnie créole apporte aussi son écho à la célébration.
Thomas Stengaroff, ce serait peut-être bien quand même de rétablir une vérité. Si Barack Obama a été élu en 2008, c'est en grande partie grâce aux électeurs français.
Bien sûr, les électeurs français, ils votent toujours pour le démocrate, toujours. Alors c'est régulier, c'est toujours. Mais vous savez, c'est intéressant parce que les Américains adorent les Français quand les Français correspondent aux stéréotypes, quand ils correspondent un peu à l'image préconçue d'un Français. C'est The Artist, c'est la baguette, c'est etc. Ça, ils adorent. Dès que le Français est un peu différent, type Dominique de Villepin en 2003 à l'ONU, là ils détestent, ils haïssent même les Français. Mais nous, on est pareil avec eux. C'est-à-dire qu'on adore les Américains quand ils élisent des gens qui nous ressemblent, qui ne disent pas de mal de nous. Ça, c'est un truc très français. On a nos oreilles ouvertes au maximum quand un candidat à l'élection présidentielle américaine dit la moindre petite chose sur la France. Souvenez-vous de Jeb Bush. Dans un débat, il avait critiqué le temps de travail des Français. Ça y est, alors là, c'était l'agitation médiatique française incroyable. Les Américains ne nous aiment plus, nous haïssent, se moquent de nous. Souvenez-vous de John Kerry qui parlait français, qui avait été moqué par George W. Bush pour ça. Ça y est, on avait pris fait et cause pour John Kerry. Non, je crois qu'on vit vraiment par procuration quelque chose avec les États-Unis. Voilà, c'est assez frappant de le noter quand même.
Stéphane Nikovic.
Oui, quand un candidat américain touche les désirs oui, la politique des Français, ça allait faire pleurer, oui. si vous voulez. Mais on peut aussi pleurer de tristesse quand ça va à l'encontre des attentes des Français.
Ouais, c'est presque Lafayette. On se dit, ça y est, l'Amérique nous ressemble enfin. Elle fait la révolution après nous, etc. Ouais. Il y a quelque chose enfin avant nous, mais dans notre mouvance, quoi. Ouais. Elle est notre héritière, finalement.
Lafayette, qui, alors, pour préparer l'émission, on a recherché quelques citations. Enfin, il y a deux personnages, évidemment, clés quand on parle des relations entre les États-Unis et la France, relations historiques et dans l'histoire politique. C'est évidemment Lafayette et Tocqueville. Lafayette qui écrivait à sa sœur avant de rejoindre l'Amérique: le bonheur de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité. Elle va devenir le réceptacle, et surasile de la vertu, de l'honnêteté, de la tolérance, de l'égalité et d'une tranquille liberté. C'est-à-dire, vous voyez, que tout ce qu'on pouvait mettre comme espoir dans ce que représentait l'Amérique.
On se demande qu'est-ce qu'il aurait dit de Donald Trump.
Il parlait en français, là. C'est une façon indirecte de parler en français.
Oui.
Comme Tocqueville aussi, son étude sur l'Amérique, c'était vraiment une façon de parler aux Français. Et comme souvent dans l'histoire de la France.
Les deux Amériques, sont deux Amériques vraies. Il y a Donald Trump et il y a aussi Barack Obama. Et je pense que, enfin, je suis neutre sur ce débat, mais le fait qu'on parle, j'ai entendu parler, oui, est-ce que c'est le populisme qui est de retour aux États-Unis? Donald Trump fait et populiste surtout. Mais, et est-ce que c'est maintenant le futur de la politique américaine? Mais en fait, il n'y a que 4 ans et 8 ans avant ça, on a vu quelqu'un qui est arrivé avec une intelligence, des arguments assez sophistiqués, un type lui-même plutôt français qu'américain, très cool, très bien habillé, il fume. c'est ça le paradoxe, c'est qu'en une vingtaine d'années, on a vu deux côtés des États-Unis qui sont vraiment...
On a déjà... creuser le sujet. Souvent, quand les Français parlent des États-Unis, ils parlent indirectement, par contournement, aux citoyens français. C'était le cas de Lafayette, de Tocqueville. Après tout, le statut de la liberté est un cadeau. La France, mais de la Boulay, qui a mis ensemble ce projet, c'était un grand libéral. Il voulait, par ce cadeau, parler aux Français, à une époque où le libéralisme avait un peu de mal. Donc, je crois que souvent, en France, en parlant des États-Unis, on veut s'adresser aux Français par bankshot, par ricochet, si vous voulez.
Mais alors, qu'est-ce qu'on essaie de dire aux Français aujourd'hui, quand on s'intéresse à ce point, au caucus démocrate et républicain, Stefanekovic?
C'est très participatif. Hein. On se réunit, on se parle. On parle beaucoup. Les philosophes en France n'arrêtent pas de parler d'un avènement le désir d'avoir en France, de l'intérieur en France ou ailleurs, une démocratie participative. Un caucus, c'est éminemment un instant de démocratie participative. Mais ici, peut-être il faut avertir les philosophes. On voit qui dans cette démocratie participative? On voit les plus extrêmes parce qu'ils sont les plus motivés, les plus passionnés. Donc, il faut faire toujours attention à ce qu'on veut.
Mais je pense que ça aussi, c'est la France aussi se prépare pour des primaires. C'est pas la première fois pour les socialistes, mais c'est la première fois à la droite. Et là aussi, ils s'habituent à tout ce processus qui était assez étrange encore.
Ouais, et puis le débat actuellement chez les Républicains, mais de chez nous, de France, qui repose en grande partie sur primaire ouverte ou fermée, c'est un débat américain en réalité, hein, sachant qu'évidemment, ils savent bien que plus la primaire est fermée, plus elle est radicalisée, parce que on ne parle qu'aux encartés d'un parti.
Motivés,
les gens les plus motivés. Et en général, il faut parler à cette frange-là. Et après, les Américains l'ont montré à tant et tant de reprises, et c'est à mon avis une leçon à suivre pour les Français, c'est que si on fait des primaires que dans son propre parti et uniquement avec les gens qui sont encartés dans le parti, après, il est très difficile de revenir au centre pour gagner les indépendants, parce qu'on a fait une campagne pendant des mois sur un discours très radical. C'est exactement... Alors, c'était pas que... dans l'Iowa, ou avec Romney, en 2012, qui était plutôt à modérer, qui a dû aller parler, parce qu'il était embêté par Santorum, aller parler aux plus radicaux sur l'avortement, sur sur les femmes. Et après, il a pas pu revenir au centre. C'est le péril qui est vraiment devant tous les partis français qui vont se lancer dans des primaires.
Si on arrive à faire à ce point un parallèle, Stephen Ekovich, est-ce que c'est pas aussi parce que le système politique américain est peut-être celui qui nous ressemble le plus? On est dans un régime présidentiel.
Oui, c'est vrai.
C'est aussi le cas en France, même si alors peut-être les constitutionnalistes seraient pas.
Non, on est
tout
semi-présidentiel.
Fait d'accord,
nous.
Voilà, pour dire. Semi-présidentiel, oui. Semi-présidentiel, mais enfin, en tout cas, c'est celui qui se rapproche peut-être le plus du nôtre et qui fait qu'on va s'intéresser bien davantage aux élections aux États-Unis que, par exemple, je sais pas, aux élections générales en Allemagne ou au Royaume-Uni ou en Espagne.
On s'intéresse aux élections présidentielles, mais aux États-Unis, le législatif, le Congrès est beaucoup plus puissant que le législatif en France. On dit souvent que la France est une monarchie élective, par exemple, parce que l'exécutif a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Le Congrès américain peut poser des obstacles à toute démarche, beaucoup de démarches du président. Et il faut ajouter autre chose, encore une fois, c'est un système fédéral où beaucoup de politiques et politiques locales, ça fait que ce qu'on appelle nos establishments sont faibles, en fait, aux États-Unis. L'establishment du Parti républicain est faible au niveau national. Les partis politiques sont organisés, créés et animés au niveau de chaque État. D'une certaine façon, on peut dire qu'il y a 50 Parti républicain, parce qu'il y a 50 États, même dans certains grands États comme la Californie, il y a deux partis démocrates, parce qu'il y a du Nord et du Sud, si vous voulez.
Ah, mais je pense aussi que c'est facile, pas seulement pour les Français, pour beaucoup d'autres gens d'autres pays, que c'est un système aux États-Unis très personnalisé, et parce que c'est un système présidentiel. Donc oui, ça ressemble à la France, mais avec les médias, avec quand même un énorme pays où, comme vous avez dit, tout le monde se distingue un peu par les extrêmes. Il faut se distinguer parce que c'est comme ça qu'on a l'image du futur président. Donc c'est
il y a quand même aussi une responsabilité des médias du coup là-dedans, c'est-à-dire on voit bien leur attention sera captée par ceux qui réussiront le plus à se distinguer.
Beaucoup plus fascinant de suivre quelqu'un comme Trump ou quelqu'un comme Obama, enfin des deux côtés, qu'autre de CDU et les SCU et enfin tous les partis européens qui peuvent être assez opaques et pas très faciles à suivre.
Angela Merkel, si elle était américaine, n'aurait peut-être pas été dans la course en tête pour la présidentielle.
C'est difficile.
Comme
mais c'est vrai qu'en même temps, je crois que ce qui nous intéresse, nous Français aussi, c'est parce que le destin de notre destin se joue aussi avec cette élection. Il ne faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, le fait, bien sûr, vous évoquiez le fait que la Constitution fait que le président il n'est pas si puissant que ça. Il y a un domaine quand même dans lequel il est puissant, c'est en politique étrangère. C'est le domaine qui nous intéresse le plus. Et à chaque fois, la grande question qui revient tous les 4 ans, c'est quelle sera la politique européenne, quelle sera la politique française, quels seront ces liens de chef d'État à chef d'État, personnel avec tel et tel chef d'État. On sait que ça pèse énormément, bien sûr, dans notre intérêt. Alors, c'est encore un peu tôt, on est au caucus, mais quand on va arriver à la finale, on va commencer à se poser des questions de politique extérieure, que ne se posent d'ailleurs pas tellement les Américains, mais qui nous intéressent, nous, Français, parce que ça nous concerne. Alors, effectivement, je vois venir la question, pourquoi on s'intéresserait moins aux Chinois? C'est vrai que mais peut-être parce que les dirigeants chinois ont peut-être moins une politique française qu'aurait, ou européenne qu'aurait
Oui, parce qu'on voit bien quand même aujourd'hui les inquiétudes, par exemple, dès que l'économie chinoise va un peu moins bien. Désormais, on inquiète énormément. Peut-être moins cette approche-là par rapport aux États-Unis qui est peut-être vue aujourd'hui comme une puissance un petit peu déclinante, même si ça se passe plutôt bien au niveau économique.
Oui, je voulais revenir parce que quand même le pouvoir en Chine a pas un visage qui est très compréhensible pour des gens qui ne s'intéressent pas beaucoup à la Chine.
Et le processus très ouvert des primaires,
ça n'existe
pas encore en Chine.
C'est une politique, oui, exactement. Donc voilà, ça c'est une chose, mais je pense que bien sûr que les États-Unis, ça fascine. Moi, j'ai travaillé à l'étranger partout et tout le monde suit les États-Unis beaucoup plus que les États-Unis suivent
la
politique interne des autres pays.
Parce ça reste qu'on malgré est tout la première puissance mondiale, Stephen Ekovich.
Encore, oui.
Regardez, Raoul Castro était à Paris. Il ne serait pas encore venu, à mon avis, sans le rapprochement avec les États-Unis entre-temps. Donc, on voit quand même que le ton est donné par les États-Unis encore.
Parce qu'une grande puissance a des moyens, comment dire, il y a les moyens des puissances, mais il y a puissance et sens. Donc d'être une grande puissance vous donne la possibilité de donner sens au monde, de donner sens aux institutions internationales. C'est un volet très important d'une puissance, peut-être pas hégémonique moins aujourd'hui que dans le passé, mais c'était le propre de toutes les grandes puissances dans l'histoire. Oui. C'était, ils ont établi le sens des choses.
Les Américains disent to shape the world, quoi. C'est façonner le monde. Et ça, c'est une idée fixe. Je l'entends très souvent dans la bouche des présidents lors des discours sur l'état de l'Union, notamment Bill Clinton en 93, dans son premier discours, alors que l'Amérique était seule au monde. À ce moment-là, en 93, il n'y avait plus le Japon économiquement, il n'y avait plus l'URSS géopolitiquement. Il avait dit, nous avons la capacité de façonner le monde. Et ça reste effectivement une idée forte pour les États-Unis.
Et ça, c'est encore présent dans la campagne électorale aujourd'hui.
On voit Donald Trump qui, enfin, comme j'ai dit avant, il n'a pas vraiment des arguments, mais il y a des phrases. Et les phrases, c'est « Make America great again », donc il faut que la retrouve. Enfin, c'est son idée fixe. Enfin, je dirais que encore plus que l'immigration et toutes les autres choses, c'est que cette idée qu'il faut retrouver la grandeur, etc.
Je voudrais trop revenir, si vous permettez, juste pour terminer l'émission, on est déjà presque à son terme, sur cette idée de débat par procuration que nous offrirait la vie politique américaine. Autre citation, alors elle est beaucoup plus récente, c'est celle de Louis Georgetin, qui est le président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France, qui réagissait ainsi... C'était encore en 2008, après l'élection de Barack Obama. Il disait ceci. D'une manière générale, en France, on aime beaucoup les Noirs d'Amérique. Si vous prenez un discours de Barack Obama, de Martin Luther King ou de Jesse Jackson et que vous le montrez à un Français, il va le juger formidable. Si vous lui dites qu'il a été prononcé par un Noir français, il vous dira attention au communautarisme. Est-ce que c'est pas d'autant plus facile de défendre, de parler des Noirs et de la question noire, voire de la question raciale, Thomas Negaroff, quand il s'agit d'Américains, mais quand il s'agit d'en parler en France, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça serait là aussi une forme de débat par procuration.
Alors, pour certains, c'est le cas. Je vois pas mal de militants français communautaristes noirs qui vont aux États-Unis fascinés par le modèle américain en oubliant à quel point le communautarisme américain est dysfonctionnant. C'est-à-dire que l'état aujourd'hui de la situation des Noirs aux États-Unis est quand même moins enviable qu'en France. Donc, il y a encore une fois ce double jeu de fascination et de rejet en même temps. Mais je crois que ça serait un piège pour nous de nous saisir de la question raciale française à travers un prisme qui est totalement différent d'une autre. C'est la question de l'esclavage aux États-Unis qui est pas du tout la même que celle de la colonisation, même si j'entends des gens comme celui que vous venez de citer qui ont envie de faire le parallèle entre l'esclavage et la colonisation. Je pense que là, on a des matrices historiques qui sont quand même très différentes. Et je pense que c'est dangereux d'aller se saisir d'enjeux américains et pour les importer en France, alors que je pense vraiment que les problématiques sont diamétralement, non pas opposées, mais au moins très différentes.
Stéphane Ekovitch.
C'est encore une façon de parler par détournement aux Français, d'une façon qui ne choque pas, qui ne déstabilise pas. Mais en effet... Écoutez, toute culture plaque ses grilles d'analyse sur les autres. Et quand on plaque ses grilles d'analyse sur un autre, on va se tromper. C'est pourquoi je dis très souvent, quand les Français parlent des États-Unis, ils veulent d'une certaine façon parler aux Français, par les biais de cet États-Unis mythique qui est parfois mal compris, même par les Américains d'ailleurs, mais surtout par ceux qui sont de l'extérieur. Mais on est encore une fois obligé de comprendre, d'interpréter, de suivre ce qui se passe aux États-Unis, parce que justement, ça va toucher les vies des Européens et des autres, et le reste de la planète.
Bon alors, la présidentielle américaine, ce sera fin 2016. Que va-t-il se passer en 2017? Autre événement à portée mondiale, la présidentielle française. Puisqu'on posait la question ce soir de savoir si les élections américaines étaient une passion française, est-ce qu'on pourrait inverser notre titre de ce soir, Célestine Bollène, et dire que la présidentielle française, c'est une passion américaine? Est-ce que ça intéresse ne serait-ce qu'un tout petit peu nos amis américains?
Je pense que cette campagne est la preuve que les Américains ne suivent pas beaucoup les affaires des autres pays. Et ça, c'est parce que c'est une grande puissance, mais c'est aussi une puissance continentale. Elle est suffisante, elle n'a pas besoin de d'autres. Elle vit très bien chez elle. Et donc, elle suit vraiment pas... Enfin, on peut constater, comme journaliste, il y a beaucoup moins d'actualité internationale.
Qu'est-ce qu'on vous demande, par exemple, vous, sur la campagne ou sur la vie politique française pour le journal pour lequel vous travaillez?
New York Times, c'est quand même un peu différent parce que c'est continuer à avoir d'écrire sur des autres pays, des affaires internationales. Mais je pense que même les attentats et tout ça a dominé tout ce qui est actualité française. On connaît assez bien Hollande et Sarkozy, mais les nuances, Taubira, je pense que ça, personne n'en a parlé.
Les Américains vont suivre plutôt ce qui se passe chez Chanel qu'à l'Elysée.
C'est plus intéressant, peut-être.
Ça me paraît une excellente conclusion. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Stéphane Ekovic, Célestine Bollen et Thomas Snegaroff. Émission que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez également nous écrire et suivre cette discussion en différé sur Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Alexandre Dang. Demain, qui va voter la réforme constitutionnelle? Débat politique très franco-français.